Salut Jacques.
Salut.
Est-ce que t'as passé une belle fin de semaine, toi, personnellement?
Oui, occupé, hein. J'étais épuisé hier soir, mais ça valait la peine.
Tu savais à quoi t'attendre en t'en venant, hein, Jacques?
Oui, Montréal, c'est toujours un peu extrême. Mais là, cette année, il y avait un peu de piment en plus.
Beaucoup de piment. Et justement, permets-moi, avant même de te parler de la course, comment as-tu vécu le moment, ton tour d'honneur dans la Ferrari numéro 12, mon cher?
Ben, écoute, c'était le fun parce que le public était positif d'entrée. Donc, c'est sûr que ça rend toujours les événements plus plaisants. Mais oui, c'était génial. C'était un bon moment. C'était des bons souvenirs pour moi aussi et aussi d'être dans la voiture de Gilles. C'est un mélange des deux.
Il y avait beaucoup de bonnes vibrations, me semble, sur le circuit Gilles Villeneuve en fin de semaine. Les as-tu ressenties?
Oui, il y avait beaucoup de monde. Hein. Il y avait un bon vibe. Mais déjà, quand Ferrari se bat pour le championnat et est en tête, ça aide. À part Monaco et un peu l'Espagne, on a eu des bons grands prix excitants cette année. Donc, il faisait chaud en plus. Donc, oui, le monde est venu, il y en avait beaucoup. C'était le fun.
Tout à fait. J'ai intercepté quand l'intervieweuse là, du ce qu'on appelle du fil international, là, de l'alimentation internationale pour les réseaux de F1. D'ailleurs, je te félicite parce que faisant suite, entre autres, à la mini-controverse là, de la langue de travail dans les points de presse de la FIA et de la Formule 1 la semaine dernière, tu as répondu dans les deux langues à ces questions. Et c'était tout à fait honorable de ta part, alors que rien ne t'y oublie.
J'étais un peu mal à l'aise.
Pardon?
J'étais un peu mal à l'aise parce que normalement, on répond à la question dans la langue dans laquelle elle est posée.
Oui, oui.
Surtout pour le feed international de la FOM.
Oui. Ici, hein.
Mais là, en même temps, une fois que j'ai commencé à répondre, j'ai entendu sur les speakers que c'était ce qui était dit, ce qui passait pour le public qui était assis, donc qui était présent. C'est pour ça que là, j'ai commencé à switcher entre l'anglais et le français. C'est un peu un mélange.
Ben, je suis content que tu l'aies fait. Puis écoute, donc je suis content. J'avais deviné exactement ce que tu ressentais parce que on le sent dans ton langage corporel que comme t'entends l'écho de ta voix et je trouve que j'ai trouvé ça génial que t'aies réagi ainsi et pour les gens qui étaient présents sur le circuit. Maintenant, la première question de l'intervieweur...
Le problème avec ça, c'est qu'à la télé française, on recevait des messages et ils voulaient que je parle avec un petit accent même à la télé française. Ils ont entendu, c'est un semi-accent québécois, donc... ils ont trouvé les Français, on trouvait ça très drôle.
C'est dur de faire plaisir à tout le monde. Ils ont trouvé ça drôle ou ils voulaient que t'ailles...
Non, ils ont trouvé ça très charmant.
Ben, j'imagine. En tout cas, il y a beaucoup de gens qui ont trouvé ça très charmant ici à Montréal, tu le devines, surtout ceux qui étaient sur le circuit. Maintenant, elle t'a demandé, est-ce que tu as des émotions? Ressens-tu des émotions? Tu lui as dit, évidemment, mais pour le bénéfice de nos auditeurs, j'aimerais ça que tu répondes à la même question. Quand tu es sorti de la voiture numéro 12, peux-tu nous décrire les émotions que tu as ressenties?
Ah, c'était génial. Mais déjà, il y a le fait d'avoir été assis dans la voiture de Gilles, de faire un tour du circuit. Et moi-même, pour mes souvenirs personnels, de retrouver le tracé. Donc, les virages, si c'était à très basse vitesse, le souvenir revient. C'est comme si j'avais été sur la piste hier dans en pleine course. Donc, ça, c'était génial. Et de revoir le public aussi, parce que je l'ai côtoyé assez longtemps. Donc, de revoir le public qui m'envoyait une bonne énergie, qui était positif. Surtout que certains étaient là déjà à l'époque de Gilles. Ils l'avaient vu rouler en 78. Donc, c'est pour ça que c'est un mélange de générations. C'était vraiment spécial.
Vraiment, vraiment. Et je pense que les amateurs sont partis de là bien contents. Puis en plus de ça, je sais pas comment tu as accueilli la victoire de Ferrari, Vettel sur Ferrari, dans les circonstances. Je sais que tu n'as pas de parti pris là, comme analyste objectif, mais il reste que 40 ans plus tard de voir une Ferrari gagner encore. Je trouve que c'est un bon timing. Qu'est-ce que tu en penses?
Ah oui, c'est Hollywood. Hein? C'est bon timing, c'est bien écrit. Et en plus, c'était une victoire méritée parce qu'il a été au-dessus du lot tout au long de ce dimanche. Il n'y a pas un tour où il n'était pas là présent. Donc, il était vraiment à côté de sa job. Là, il était bon. C'était bon pour Ferrari. Et lui aussi, dans ses commentaires, hein, il était très ému. Et c'est pas quelqu'un qui lit un script. C'est quelqu'un qui généralement parle du cœur, qui est très attaché au passé, à l'historique de la Formule 1 et à Ferrari. Donc, c'est vraiment très touchant.
Justement, j'ai été très touché de l'hommage, et je suis pas le fils de Gilles, là, mais comme Québécois, très touché de ces mots à l'endroit de Gilles. Comment tu les as accueillis?
Ah, ben, c'était génial. Je lui ai parlé de temps en temps au fil des années, et c'est vrai que c'est quelqu'un qui est passionné par la course automobile, par ce qui a été fait par le passé, par les gens qui ont construit et fait aimer ce sport.
Et toute une performance. En fait, la course comme telle, Jacques, on a beaucoup à dire sur le week-end dans l'ensemble. Qu'as-tu pensé de la course?
Oh, c'est une des courses plates, là. Ça ressemblait un peu à Monaco. Mais c'est le problème qu'on a avec les pneus, souvent. Dès que les pneus se surchauffent, ben, les pilotes ne peuvent pas attaquer. Et on avait ça à partir du deuxième tour. Les pilotes étaient à la limite de la surchauffe. Ils ont des chiffres là, sur leur tableau de bord qui leur donnent les températures hein, du moteur, l'usure du moteur, les températures du pneu, ainsi de suite. Et ils roulent à l'intérieur de ces limites-là. Et quand on a ce souci-là, ben, il n'y a pas de course. Il n'y a pas de course parce que personne ne peut attaquer. Et on ne peut pas dire que c'est à cause des appuis aérodynamiques, des ailerons, parce que Montréal, ce n'est pas primordial. Parce que tout le monde dit qu'il n'y a pas de bonne course à cause des appuis aérodynamiques, qu'il faut les changer pour l'année prochaine. Mais là, même sans ailerons, ils n'auraient pu rien faire.
Donc, c'était pas une course typique de ce qu'on est habitué de voir ici à Montréal, hein, Jacques?
Non, vraiment pas. Les bonnes courses cette année, on les a eues quand il faisait très froid et où il n'y avait pas ce problème-là. Baku, par exemple, les pilotes ont pu attaquer. Eh bien, ça nous a donné une bonne course.
Te souviens-tu d'une année où les pneumatiques ont fait une telle différence, où on était au centre de tout ce qui se passe en piste?
Oui, depuis que Pirelli est là. C'est un peu la norme. Déjà, la FIA avait demandé à Pirelli pendant un certain temps de faire des pneus qui s'autodétruisaient pour essayer de créer un peu un faux spectacle. Ça n'a pas marché. Donc maintenant, les pneus tiennent un peu plus longtemps. Mais il y a toujours ce problème de contrôle de température qui est omniprésent depuis qu'on a ces gommes-là en Formule 1.
Quand on regarde maintenant ce qui s'est passé derrière Sébastien Vettel et avec les autres écuries, ou même avec Ferrari, mais Raikkonen, est-ce qu'il y a des déceptions de ton côté par rapport à tes attentes que tu avais pour le week-end, notamment Mercedes? Ben, quoique Mercedes et Red Bull sont aussi sur le podium, donc trois écuries représentées, c'est bien de ce côté-là.
Oui, mais personne n'a été impressionnant. Vettel allait vite, Bottas aussi, mais tous les autres pilotes après se suivaient, roulaient dans la limite de température et c'est tout. Donc, Raikkonen était sixième, ben, il roule sixième, Hamilton ne pouvait rien faire non plus. Donc, chacun se suivait tranquillement et restait dans son rythme.
Je suis curieux de te poser la question suivante. Aussitôt qu'il y a une course qui n'est pas trop spectaculaire, et je pense qu'on a quand même un bon début de saison à venir jusqu'à maintenant, mais aussitôt qu'il y a une course le moindrement ordinaire, tu as eu Monaco, tu as eu Montréal, où il n'y a pas eu peut-être les scénarios attendus, en tout cas ici, là, on se pose des questions. Que faire pour améliorer le spectacle en Formule 1? Comment tu réagis quand tu vois ces questions-là? Est-ce que t'es à la recherche de solutions pour améliorer le spectacle ou tout va bien?
Ben, déjà, il y a des réponses faciles, mais indépendamment de ça, la Formule 1 n'a jamais été un sport de spectacle. Il y a eu des moments de spectacle, mais ça n'a pas été une heure et demie de spectacle. Jamais, 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 même à l'époque de Gilles. Si on se souvient de l'époque Prost, Senna, quand ils étaient coéquipiers chez McLaren, il n'y avait pas de spectacle. Il mettait un tour à tout le monde, il se suivait, il n'y avait pas vraiment d'action, il y en avait peut-être une ou deux de belles pendant la course et ça suffisait. Les gens regardaient leur héros, mais c'est surtout qu'à l'époque, les voitures étaient difficiles à piloter. Les pilotes faisaient des erreurs justement à cause de ça. Donc les voitures cassaient aussi, donc il y avait des surprises. Mais il n'y avait pas vraiment un énorme spectacle en course. Et aussi, les spectateurs, on avait tous l'impression que les pilotes risquaient leur vie à chaque coup de volant. Et donc, il y avait un respect supplémentaire qui venait à travers ça. Et ça, on ne l'a plus maintenant. Mais non, rechercher le spectacle, ce n'est pas de la Formule 1. Il y a plein d'autres sports pour ça. Donc, c'est un peu la mauvaise question qui se pose. Maintenant, des solutions, il y en a des faciles. Déjà, de recréer une guerre de pneus, donc deux manufacturés de pneus, comme il y a eu pendant un moment. Là, ça pousse la technologie. D'arrêter avec ces réglementations où il faut faire toute la saison avec seulement trois moteurs. Donc, la Formule 1 n'est pas supposée être un sport d'économie. Et maintenant, c'est ce que l'on a. Un sport d'économie, un sport d'endurance.
Williams, maintenant, week-end décevant, il n'y avait pas de grandes attentes, juste à la lumière des résultats des qualifs. La course de Lance Stroll n'a pas été longue. Comment tu l'as vu, cet incident de course? Lance qui a dit qu'il l'a carrément échappé. J'ai l'impression que, oui, partant dernier, il a voulu peut-être rattraper quelques positions dès le départ.
Ben, c'est vrai qu'il était très agressif dans le premier tour, mais ça, c'est pas grave. Tant mieux, c'est bien. Parce que je pense qu'il avait déjà gagné quelques places, mais après, il a échappé à une place où personne ne l'échappe, donc c'est un peu dommage et surtout c'est dangereux. Ça a amené Hartley, le pauvre, qui était dans ses derniers Grands Prix avec Toro Rosso, il n'avait pas besoin de ça. Mais c'est un incident de course, ça arrive, c'est juste plate.
Oui, en effet, parce que quand tu viens évidemment courir ou participer à un Grand Prix dans ton pays natal, dans ta ville, t'espères toujours faire mieux. Quel est ton meilleur souvenir, bien que t'as pas gagné de course ici, Jacques, dans tes grosses années en Formule 1, évidemment en Atlantique, mais en F1, est-ce qu'il y a quand même une course? Tu nous as parlé du mur des champions, le mur du Québec, où t'as vécu quand même des sensations intéressantes avec Williams ici?
La première saison en 96, c'était Damonel contre moi. Et on est parti sur des stratégies différentes. Et il fallait que le départ, je le prenne au départ. Je ne l'ai pas pris, donc j'ai terminé deuxième. Ça a été le meilleur résultat. Mais les autres années, on était compétitifs. C'est juste que le résultat final était généralement moyen. Donc, c'était toujours une des courses où on réussissait avec l'équipe à faire un bon réglage, enlever de l'aileron parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de DRS. Il n'y avait pas l'aileron arrière mobile. Et donc, on réussissait à faire un bon réglage en course qui permettait d'être compétitif. Mais généralement, ça finissait dans le décor, malheureusement.
Il y a une comparaison qui a été faite en fin de semaine, et c'est pas la première fois que je l'entendais, qui ne t'a pas plu. C'est sorti des propos de Niki Lauda, qui, je pense, a fait une association entre le début de carrière de Gilles Villeneuve, ton père, et Max Verstappen. Qu'en as-tu pensé? Oh.
Moi, j'ai trouvé ça insultant. J'ai trouvé ça vraiment insultant parce que c'est pas très réfléchi comme commentaire. Je pense qu'il parlait du fait qu'il y avait des accidents, des accrochages. Mais ça, c'est pas étudier la situation complète parce que Gilles avait toujours beaucoup de respect pour les autres pilotes. Ne mettait pas les autres pilotes en danger que Verstappen fait. Et il n'y a pas ce respect-là. Donc, côté personnalité, c'est deux mondes à part. Donc, on peut pas non plus les comparer.
C'est un raccourci bien trop facile, donc, que d'associer quelques incidents de course au début de carrière pour dire que les deux gars ont des trajectoires semblables.
Oui, parce que Gilles n'était pas arrogant non plus dans ses commentaires. Lorsqu'on lui faisait des remarques, il disait pas qu'il allait mettre un coup de boule au prochain journaliste qui lui posait une question.
Non, en effet, on en a parlé tout le week-end. Par rapport à la course au championnat des constructeurs et des pilotes, as-tu l'impression que la course du week-end auquel on vient d'assister là relance la course dans une direction ou une autre? C'est quoi ton analyse?
On dit ça à chaque week-end. On dit ça à chaque week-end. Donc, je pense que ça va continuer de valser tout au long de la saison. Regarde, on est à un tiers du championnat. Et un point d'écart entre les deux. Donc, on repart à zéro. C'est génial. Et même dans le championnat constructeur, 14 points, c'est rien. C'est rien du tout. Donc, ça, c'est fantastique. Et les autres pilotes, donc les deux de la Red Bull, l'autre pilote Ferrari, donc Kimi Räikkönen et Bottas aussi, sont encore dans la lutte. Donc, on a encore 6 pilotes dans cette lutte. C'est génial.
Alors, on se prépare déjà pour la prochaine course en Autriche, Castellet avant. Ben oui, la France. Oui. En deux week-ends d'ici.
Le retour au Grand Prix de France, ça fait plusieurs années, c'est bien.
Exactement. Ben oui, un retour. Ensuite, l'Autriche, Grande-Bretagne. Mais, juste en te quittant, mon cher Jacques, as-tu réalisé en sortant de la Ferrari numéro 12 à quel point t'avais fait plaisir à Joanne, à ta mère?
J'imagine, oui, mais j'étais en sortant de voiture, j'étais tout de suite devant des caméras, donc.
T'as pas eu le temps tantôt. de te laisser aller à tes émotions et tes sentiments, mais je sais que t'en avais pas mal, ça devait bouillonner en dedans.
C'était spécial.
Jacques, un gros merci. C'est vraiment toujours un plaisir. Je te dis, repose-toi bien parce que tu reprends le collier au Castellet en France. Alors à très bientôt, mon cher.
À très bientôt. Bye bye.
Bye bye.